merci au Seigneur de sa présence. Voilà, ça fonctionne?
Ça ne fonctionne pas? Oui, c'est beau la technique. On va ouvrir la parole de Dieu, car nous sommes venus, c'est vrai, pour chanter des louanges au Seigneur, pour apporter notre propre louange, que nous l'ayons fait d'une manière audible, ou dans notre cœur, le Seigneur a entendu les louanges des uns et des autres. Et maintenant, nous voulons dire, Seigneur, parle-nous au travers de ta parole, et que le Seigneur m'aide par le Saint-Esprit à vous transmettre ce qu'il a placé sur mon cœur. Ça ne sera, j'espère, pas quelque chose de compliqué, mais quelque chose de simple. Le thème qui est devant nous ce matin, c'est sortir et entrer. C'est très important. Alors, on va lire un texte qui se situe dans 2 Corinthiens, au chapitre 6. Si vous avez avec vous la Bible, le Nouveau Testament, vous pourrez suivre cette lecture. Voilà, je vous laisse chercher. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 11. Il y a là donc l'apôtre Paul, mais il s'exprime, bien sûr, par la communication du Saint-Esprit. Et s'adressant à l'Église, eh bien, il s'adresse aussi à l'Église d'Annecy ce matin. Vous êtes d'accord ou pas? Alléluia. Notre bouche s'est ouverte pour vous. Notre cœur s'est montré large. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais c'est en vous-même que vous êtes à l'étroit. En contrepartie, je vous parle comme à mes enfants. Montrez-vous large, vous aussi. Ne formez pas, avec les incroyants un attelage disparate. Retenez bien ça, je me permets de le relire. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Amen. Voilà des paroles qui nous sont transmises ce matin, que nous connaissons pour certains d'entre nous, mais il est bon de se les rappeler, de les entendre à nouveau, de bien saisir le conseil de Dieu afin de ne pas rater le but final. Nous n'allons pas méditer sur tous ces versets car ils sont d'une importance, mais je vais simplement rester sur le thème et je souligne ce qu'il est dit au verset 17 en ce qui concerne notre vie d'enfant de Dieu. Il est rappelé ceci: c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Et là, je dis Alléluia. Alléluia. Dans le texte que nous venons de lire, et cité par l'apôtre Paul que nous venons de reprendre, je voudrais quand même souligner Ceci, c'est que Dieu ne change pas. Vous n'êtes pas d'accord? Et les propos que Paul est en train de citer aux Corinthiens, nous les retrouvons dans la bouche du prophète Ésaïe. Ainsi, dans Ésaïe au chapitre 52, versets 11 et 12, je vous lis là dans la version Darby, il est écrit ceci, écoutez bien, « Partez, partez, sortez de là, ne touchez pas à ce qui est impur, sortez du milieu d'elle, soyez purs, vous qui portez les vases de l'Éternel, car vous ne sortirez pas avec précipitation et vous n'irez pas comme des fugitifs, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël sera votre arrière-garde. » Et moi là je dis gloire à Dieu. Nous avons lu tout à l'heure ce texte où Paul précisera en disant que Dieu nous accueillera. Alléluia. Alors moi je crois qu'il nous a déjà accueillis, puisque nous sommes devenus ses enfants. Mais il viendra un jour où il nous accueillera dans sa demeure céleste. Mais pour y arriver, eh bien, il y a quand même des points qui nous font souligner. L'enseignement que nous pouvons retenir de ce que nous avons lu déjà, c'est celui-ci, c'est qu'il y a une sortie à faire. Je l'ai cité, sortir. Et il y a une entrée à ne pas rater. Ce n'est pas la rentrée dans l'église que, dans laquelle nous sommes, dans ces murs où nous sommes, c'est de ne pas louper notre entrée dans la vie éternelle. Excusez l'expression louper, mais c'est pour bien comprendre. Et quand on réfléchit encore par l'enseignement que nous avons lu, entre l'invitation à sortir de la part de Dieu et l'invitation à rentrer dans sa présence éternelle, eh bien, il y a une conduite à tenir. Et cette conduite à tenir est soulignée par le fait que nous devons vivre et marcher dans la pureté, dans la sainteté, c'est-à-dire dans l'obéissance à la parole de Dieu pour arriver en vainqueur, avec sa grâce, dans la vie éternelle, c'est-à-dire dans sa présence. C'est-à-dire aussi en clair qu'entre sortir et entrer, le Seigneur nous demande d'avoir une conduite qui honore son nom, c'est-à-dire que nous devons avoir une conduite à tenir qui soit agréable à Dieu chaque instant de chaque jour. Et là, j'ajoute, Seigneur, viens au secours de notre faiblesse. Que serions-nous sans toi? Car nous nous souvenons, frères et sœurs, que c'est par grâce que nous sommes sauvés, que nous avons besoin de toute la grâce de Dieu, mais permettez-moi d'ajouter, dans sa grâce, Dieu ne fait pas tout. Je t'appelle, je te montre la route, je prépare la place, tout ça c'est mon amour et ma grâce, mais toi, fais ta part. Alléluia. Fais ta part. Il ne faut pas toujours dire Seigneur, aide-moi. Il faut lui dire Seigneur, je veux faire ta volonté. Et aide-moi à faire ta volonté. Que ce désir soit réel en nous. Mais quoi qu'il en soit, il faut toujours, même si nous avons des années de conversion ou si nous sommes nés de nouveau il y a peu de temps, nous devons bien prendre conscience que Dieu nous appelle à sortir et à rester dehors et à ne pas retourner, comme dit la parole de Dieu, à ceux que nous avons vomis. Quand nous entendons la voix de Dieu ou l'appel de Dieu, nous sommes amenés à prendre une décision. Pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens, ce matin, nous avons pris cette décision un jour, en nous engageant à passer par les eaux du baptême pour être dans la présence de Dieu, pour le suivre. Alléluia. Et pour faire justement sa volonté. nous avons pris une décision de sortir du contexte dans lequel nous vivions, et à partir de ce moment-là, nous avons vu la fidélité de Dieu, le secours de Dieu, la bénédiction de Dieu, mais nous avons trouvé la liberté et l'espérance du salut, qui un jour se concrétisera, car c'est une certitude que si nous demeurons fidèles, nous verrons la gloire de Dieu dans l'éternité. C'est aussi une question de choix que nous avons fait lorsque nous avons répondu à l'appel du Seigneur. Et aujourd'hui, eh bien, cette question de choix demeure, parce que dans notre vie de chrétien et de chrétien de chaque jour, nous sommes appelés à faire des choix. Et faire le choix entre ce qui est bien et ce qui est mal. Oui, il y a des situations dans lesquelles il faut dire non et rester sur le non. Et quand c'est pour le Seigneur et dans le plan du Seigneur, de dire oui. Mais je ne dois pas faire de compromis, et vous allez de suite comprendre, je ne dois pas faire de compromis avec le monde. Dieu nous dit, sors du monde. Ou si vous préférez, c'est ce que nous allons voir, sors de la pensée du monde, de la vie de ce monde, qui est une vie qui est contrairement opposée et de plus en plus à la volonté de Dieu et à l'enseignement que Dieu donne. Et si Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre pour nous amener à la recherche de la sanctification et à nous mettre à part, comme nous l'avons lu, c'est parce qu'il veut notre bien et c'est parce qu'il veut nous sauver pour l'éternité. Mais là aussi, c'est une question personnelle. Lorsque je suis placé devant le bien ou le mal, c'est à moi de prendre la responsabilité pour mon salut. Nous savons très bien que si je choisis le mal, je perds mon âme, mais si je choisis le bien, par la grâce de Dieu, je sauve mon âme. Le choix t'appartient. Mais Dieu t'avertira toujours. Et il mettra tout en œuvre pour te sauver. Quand Dieu parle, et quand je dis Dieu met tout en œuvre pour sauver, alors je vais vous citer simplement rapidement deux exemples, enfin, mais je ne vais pas m'étaler sur ces deux exemples, je vais parler à suite d'Abraham, ou d'Abraham. Mais regardez dans l'Ancien Testament. Noé a été sauvé. On est bien d'accord. Mais il était sauvé parce que Dieu a vu que Noé était juste et droit dans ses relations avec lui et dans sa vie. Par contre, quand on lit bien le texte, et vous le connaissez comme moi, Noé fut sauvé d'un monde méchant et violent. Oui ou non? Et de gens qui ne voulaient rien entendre sur la parole de Dieu ou sur l'appel de Dieu, puisque le temps dans lequel Noé a construit son arche sur la demande de Dieu, il nous est dit que dans ce temps-là, Noé était le prédicateur de la justice. D'accord? Donc ce qui a fait que sur 100 ans environ, les hommes du temps de Noé ont entendu l'appel de Dieu qui a été rejeté. Mais Dieu s'est souvenu de son serviteur qui a obéi à sa voix, qui a tout préparé suivant ce que Dieu lui a demandé de faire, c'est-à-dire l'arche. Et au temps fixé par Dieu, Dieu a dit à Noé, entre dans l'arche. Oui ou non? Parce qu'il a été trouvé agréable à Dieu et parce qu'il n'a pas répondu à la pensée du monde dans lequel il vivait. Mais il s'est tenu à l'écart, il a annoncé la parole de son Dieu, et Dieu, en son temps, dit « entre ». Et je vous fais remarquer dès à présent, parce que le temps va vite passer, dès à présent, je vous fais remarquer que c'est Noé qui a eu l'appel, mais Dieu a eu compassion non seulement de Noé, mais aussi de toute la famille. Vous l'avez vu ça? Ah oui, c'est formidable ça. Si je prends un petit deuxième exemple, Lot. Lot lui aussi, Dieu lui a dit, sors de là. Il a même dépêché deux anges pour aller vers Lot. Et il lui a conseillé de partir. Et pourtant, nous savons que Lot était dans une ville, une région qui était tout à fait désagréable à Dieu parce qu'il nous est dit que Dieu a jugé cette ville parce que à cause d'un grave péché, d'un énorme péché qui n'était pas toléré par Dieu et qui ne sera jamais toléré par Dieu. Je ne rentre pas dans les détails. Mais vous m'avez tous compris, et si vous lisez la parole de Dieu, vous le savez exactement. Mais Dieu a eu compassion de Lot. Il nous est dit dans un texte que Lot vivait dans cette ville, cette région, mais il souffrait. Son âme souffrait de voir les choses qui se passaient tout autour de lui. Je ne sais pas comment vous réagissez, comment vous pensez, mais quand je vois toutes ces choses autour de nous, toutes ces choses qui envahissent, je vais même dire les écrans, toutes ces choses que l'on veut enseigner à nos enfants, on ne peut pas rester insensible quand on connaît la parole de Dieu. Et c'est peut-être pour cela qu'on peut dire ce matin que le temps qui est devant nous est un temps qui est court, parce qu'il annonce le retour du Seigneur Jésus. Et que les temps qui sont devant nous, mes frères et sœurs, sont des temps difficiles. Ne nous y trompons pas. Pas seulement difficiles dans les moyens matériels, mais difficiles dans les temps moraux, qui sont immoraux. Mais le chrétien, lui, doit vivre sa vie de chrétien dans une vie de pureté et de sainteté. Lot a été sauvé. Lui, et je ne peux pas dire sa famille. Au départ, il y avait sa famille. Mais à l'arrivée, Madame Lot avait disparu. Elle avait été changée en statut de sel. Parce qu'elle avait reçu le même appel, le même conseil de Dieu. Sortez! Les anges ont même pris Madame Lot et les filles, les ont fait sortir avec Lot de leur maison, de leur ville, en disant, allez là-bas, dans cette petite montagne-là, puisque c'est votre souhait. Mais ne vous retournez pas en arrière. Dieu parle. Et Dieu nous dit, ne vous retournez pas en arrière. Ou si vous préférez encore, ne retourne pas en arrière. Ne regarde pas en arrière, car il est écrit, et c'est Jésus qui le dit, celui qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est bien écrit. Donc le chrétien n'a qu'un seul regard à porter, devant. Ouh. Devant, ni à droite, ni à gauche, ni derrière, devant, mais en regardant devant, c'est parce que mon regard est fixé sur mon divin berger, sur Jésus-Christ. Ayant les regards fixés sur Jésus, et étant fidèle à l'écoute de la voix du Seigneur, alors je progresserai et rien ne pourra me toucher, parce que le Seigneur, dans son immense amour, me gardera. Il est mon avant, mais il est aussi mon arrière-garde. On l'a lu tout à l'heure. Amen. Mais je dois avoir une vie qui se colle à l'enseignement du Seigneur Jésus, à l'enseignement de Dieu. Quand on prend le troisième exemple qui s'appelle Abraham ou Abraham, lui aussi était dans une situation difficile. Et Dieu lui a parlé, au chapitre 12, verset 1-2, il est dit, « L'Éternel dit à Abraham, Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras, ça c'est merveilleux, une source de bénédiction. Alléluia. Mais la source de bénédiction est attachée à l'obéissance. Vous avez vu ? C'est ce qui est écrit, hein. Je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce que j'aimerais pour vous, hein, je vais le dire maintenant parce que l'année prochaine est proche. Donc je vais vous dire, soyez pour tous ceux qui vous entourent une source de bénédiction. Alléluia. Mais nous serons, vous serez une source de bénédiction à partir du moment où vous obéirez. Même quand Dieu nous demande d'accomplir des choses difficiles. Pour sa gloire. Toujours pour sa gloire. Parce que pour Abraham, Dieu lui dit, quitte ton pays, ta maison. C'est pas toujours facile, ça. Hein ? Oui. Mais je me suis posé une question, je me la pose, et vous réfléchirez. Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Abraham de quitter Ur, sa ville ? Ah ! C'est une bonne question ! Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Abraham, quitte tout et va-t'en et je te montrerai un pays dans lequel tu vivras. Et il est même écrit dans un autre texte, on a le temps peut-être, on le lira. Il nous dit que Abraham obéit et il partit sans savoir où il allait. Voilà. Quelle foi ! Hein ? Même si Dieu plus tard il va lui révéler qu'il va le conduire dans le pays de Canaan. Mais au départ, il ne lui a pas dit. Et il est parti, sans savoir où il allait. Sans savoir ce qu'il allait aussi rencontrer pendant ce voyage. Et là, je parle difficulté. Mais il y est allé. Alors pourquoi Dieu a-t-il demandé à Abraham, qui était installé, de quitter la ville de Ur ? Il y a deux raisons, je vais vous répondre. Vous me permettez ça ? Oui. Les habitants de cette ville croyaient en plusieurs dieux, mais pas au Dieu de l'éternité. Il y avait donc plusieurs dieux. Et le principal était, je cite, hein, si vous devez sourire, souriez, mais il s'appelait Nanar-Sin. C'est le dieu de la lune qui était aussi vénéré dans une autre ville, et je le précise de suite, dans la ville de Haran. Et par rapport à cette idolâtrie, les gens de la ville d'Ur offraient aussi des sacrifices, mais des sacrifices aussi humain. Il y avait donc des mœurs particulières et une très grande idolâtrie. Ça, c'est la première raison de pourquoi Dieu est allé chercher Abraham, parce que n'oublierons pas qu'Abraham avait une relation très intime avec Dieu, et dans un autre texte, il est appelé l'ami de Dieu. Et quand on est ami de Dieu, Dieu prend soin de nous. Rappelez-vous quand même que le Seigneur Jésus a dit à tous ceux qui croiraient en son nom et en sa parole, « Je vous appelle mes amis. » Parce que vous écoutez, parce que vous entendez et parce que vous faites ce que je vous dis. Quoique quelque part, un jour, le Seigneur a dit, « Je vous parle et pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis ?» Il faut réfléchir, hein, quand on lit la parole de Dieu, il faut réfléchir. Le deuxième point, c'est les us et coutumes du pays qui sont en contradiction avec la pensée du Dieu éternel, le Dieu d'Abraham. Il fallait sortir avant d'être contaminé et rompre avec le paganisme ambiant, les mauvaises pensées, les mauvaises idées, etc., qui se pratiquaient dans la ville de Ur. Et Dieu est intervenu en allant chercher son serviteur Abraham, pour l'amener vers un pays qu'il ne connaissait pas, mais nous allons en parler peut-être tout à l'heure. Donc, là aussi, on s'aperçoit que Abraham va quitter Ur avec sa famille, laissant bien sûr derrière lui sa ville, sa maison, ses affaires, et il séjourna pendant un temps où ? Allez. Pardon ? Haran. Haran. H-A-R-A-N. Et il y resta là quelques années parce que quand il est parti, il avait aussi son papa. Donc toute sa famille avait son papa. Et puis Haran, son papa, est mort. Et là, Dieu va encore parler et va dire, allez, reprends la route. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, je l'ai souligné, Haran avait les mêmes principes que Ur. Il ne pouvait pas rester à Haran non plus. Alors Dieu lui dit, maintenant, continue ta route. Et là, il est parti. Et il est parti pour arriver jusque au pays promis. Genèse 12, 5, il est dit, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent à Canaan. Merci Seigneur. Dieu a veillé sur son serviteur et sur sa famille. Petite précision que nous trouvons dans Hébreux au chapitre 11, verset 8, et là je vous lis un verset dans Parole vivante. C'est à cause de sa foi qu'Abraham obéit à Dieu lorsqu'il fut appelé à partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Et là, précision, il partit sans savoir où il allait. Amen. Petite parenthèse que pour vous dire que nous avons répondu à l'appel du Seigneur. Et nous souhaitons que tous ceux qui sont de cette salle puissent répondre effectivement à l'appel du Seigneur. Nous, par la grâce de Dieu, le lieu où nous devons arriver. Oui ou non ? La vie éternelle, promise à tous ceux et celles qui croient, grands ou petits. Tous ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur personnel reçoivent la même promesse et tu seras sauvé pour l'éternité. Alléluia. Mais là, d'un seul coup, ça va peut-être assombrir votre pensée. Nous avons accepté Jésus comme notre sauveur. Nous avons l'espérance et la certitude de la concrétisation de notre salut. Mais entre les deux, nous ne savons pas ce qui va se passer. Vous êtes tous d'accord là ? Nous ne savons pas. Nous aurons de bonnes choses et nous aurons des complications. Pour les bonnes choses, vous dites quoi ? Pour les mauvaises, vous dites quoi ? Parce que j'ai une autre bonne nouvelle, c'est que le Seigneur permet que nous ayons des épreuves. Et parfois, c'est lui qui les envoie. Pourquoi ? Pardon ? Voilà, pour éprouver notre foi, pour la purifier. C'est le creuset qui purifie notre foi, parce qu'il faut que notre foi soit aussi belle que l'or quand il sort du haut fourneau et qu'il passe par le creuset. Et je comprends qu'on n'est pas toujours enclin à dire amen à l'épreuve quand elle est parfois longue et difficile. Mais le Seigneur nous dit toujours, je suis là. Je suis ta garde, devant et derrière. Je prends soin de toi. Alléluia. Il y a un homme de la Bible que je vais citer, que nous connaissons tous. C'est un homme qui était heureux. Alors là, il avait une gentille femme au moment où tout allait bien. Il avait des enfants, il avait des biens en nombre. Et un jour, Dieu a permis qu'il passe par l'épreuve. Dieu était, je veux dire, entre guillemets, fier de Job. Je l'ai entendu parler Un jour, Satan se présente devant Dieu et Dieu a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Comment, sous-entendu, comment il m'aime, comment il m'écoute, comment il me suit, etc. Eh, Satan dit, ouais, ben, tu le bénis, c'est normal. Là, j'explique un peu pour que tout le monde comprenne. Ouais, tu le bénis, mais sous-entendu, cesse de le bénir et il va te renier. Alors Dieu dit, ben, envoie l'épreuve, mais surtout n'atteins pas sa vie. C'est ça les paroles. Là, je résume toujours. Et c'est à partir de ce moment-là que les épreuves sont tombées sur Job. Il a tout perdu. Ses enfants, ses biens, il a tout perdu. Même sa santé. Il a été atteint d'un mal qui était pénible à supporter. Le texte dit même qu'il se grattait avec des tessons de verre pour essayer de faire passer sa souffrance. Et puis il y a cette réaction de Madame Job, qui en fait souffrait elle aussi de voir son mari être atteint de ce mal, et elle savait qu'il y avait une solution. Elle va le trouver, elle va dire, écoute Job, maudit Dieu et meurt. Et Job a entendu cette phrase, alors on ne sait pas trop la réaction dans le cœur de Job, mais il a une réaction vis-à-vis de Dieu. Nous avons reçu du Seigneur ce qui est bon. Nous pouvons aussi recevoir ce qui est mauvais. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Ça doit être la position de tout enfant de Dieu. D'autant plus que pour Job, l'épreuve a été longue, avec beaucoup de questions. Mais quand on arrive au chapitre 42, ça, c'est formidable. Et entre les premiers chapitres et le chapitre 42, il est au milieu de ce livre, on s'aperçoit que Job va s'écrier d'une manière formidable. Je sais que mon Rédempteur est vivant, mes yeux le verront et pas celui d'un autre. En pleine épreuve, sa foi, sa confiance en Dieu n'avait pas failli. Et il savait que quoi qu'il arrive, tout en restant fidèle à Dieu, il verrait Dieu au temps marqué par Dieu. Alléluia. Ça, c'est la bonne position qu'il nous faut prendre, frères et sœurs. Ne pas succomber aux idées, aux pensées, d'où qu'elles arrivent, qui pourraient nous entraîner loin de Dieu, mais en tout temps et en toutes circonstances, rester attachés à Dieu et ne pas participer aux pensées que le monde peut nous envoyer et qui sont contraires à la volonté de Dieu. Toujours être attaché à Dieu, notre Père, notre Maître et notre Sauveur. Alléluia. Le pays de Canaan. Vous le savez comme tous, c'est le pays d'abondance. C'est le pays où coule le lait et le miel. Alors, j'ai regardé là aussi, je repense au texte biblique, et Dieu parla à Moïse en ce qui concerne le peuple d'Israël. Et il dira ceci dans Exode, chapitre 3, verset 8. Le Seigneur dit à Moïse, « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. » Si quelqu'un est dans la souffrance ce matin, comprenez bien ce que Dieu est en train de vous dire au travers de ces textes. Je connais tes souffrances. Et s'il connaît nos souffrances, il a le moyen de la délivrance. Et là, il ajoute, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter dans ce pays, un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Alléluia. Formidable. En fait, c'est un pays d'abondance. C'est un pays de liberté. C'est un pays de repos pour le peuple d'Israël. Après tant de souffrances, Dieu a envoyé Moïse pour le conduire dans ce pays-là, dans ce pays de repos, d'abondance, où ils vont se faire du bien, où ils vont se multiplier, où ils vont aussi être conquérants de par la volonté de Dieu. Mais entre le départ d'Égypte et l'arrivée au pays promis, Relisez les textes si vous voulez bien chez vous. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile à un tel point que, moment donné, Dieu a dû dire à son peuple qu'il devait passer par un chemin plus loin et plus long que prévu, et que par la désobéissance de ce peuple qui est sorti du pays d'Égypte, que deux familles rentrèrent au pays de Canaan. Moi, je dis merci, Seigneur, d'être sous la grâce. Alors, tant pis, hein, si vous me lapidez, ça ne sera pas grave. Mais quand Dieu parle, il ne parle pas à la légère. Et si je suis sous la grâce, c'est pas parce que je suis sous la grâce que je peux faire n'importe quoi en tant qu'enfant de Dieu. C'est pas parce que je suis sous la grâce que je dois adhérer aux pensées et aux agissements du monde. Je suis avant tout un chrétien qui est donc né de nouveau, qui a la parole de Dieu, qu'il a, on a entendu ce matin, gravée dans son cœur. Et je dois accepter, écouter et vivre cette parole. Parce que si Dieu est un Dieu d'amour, c'est vrai, on le dit, il est un Dieu d'amour, son jugement est juste. Et le jugement de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il va s'établir ici. Il commence ici, par rapport à ceux qui désobéissent. Mais il est vrai que ceux qui se repentent retrouvent toujours le pardon de Dieu. Mais il arrivera si nous persistons dans nos erreurs, dans nos compromis, dans une vie en fait qui n'est pas une vie fidèle à Dieu, c'est là-haut que nous aurons des comptes à rendre. Est-ce que nous sommes d'accord sur ça? Et qu'il faut veiller sur notre parcours ici-bas, sur notre marche ici-bas. Dans Hébreux chapitre 11, versets 9 à 10, il s'agit là à nouveau d'Abraham. Il est dit ceci, parole vivante, confiant dans les promesses divines, il séjourna en étranger dans la terre qui lui avait été promise, et vivant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, auxquels Dieu avait accordé la même promesse. Et au verset 19, il est écrit ceci, je vous lis la pensée, il comptait sur son Dieu puissant. Je sais, frères et sœurs, c'est pas facile. Si un jour quelqu'un vous dit « c'est facile d'être chrétien », vous pourrez lui dire de ma part « menteur ». C'est pas facile. Parce que nous sommes tentés de toutes sortes de tentations. Est-ce qu'on est d'accord ? C'est pas facile, parce que la parole de Dieu nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Pas facile. C'est pas facile même quand il est écrit « aime ton frère comme Dieu aime ton frère ». Pas charnel, spirituel. Aimez-vous les uns les autres. Ah ! C'est dur de voir les qualités chez les autres, hein ? On a surtout un regard sur ce qui est négatif. Et je comprends le Seigneur Jésus. Enfin, vous aussi, vous le comprenez. On est bien d'accord, on comprend tous le Seigneur Jésus. Il a dit, avant de ôter la paille qui est dans l'œil de ton voisin, là, de ton frère, de ta sœur, charnelle ou spirituelle, essaye d'abord d'ôter la poutre que tu as dans ton œil. C'est pour ça que des fois, il y a des chrétiens, ils marchent comme ça. Ils ont une poutre dans l'œil droit. Bon, c'est une image pour vous faire un petit peu sourire, parce que je ne sais pas, plus j'avance dans la prédication, plus je vais m'arrêter. Non. Dieu nous parle. Parce que si nous ne voulons pas que Dieu nous parle, nous ne lui disons pas dans nos prières, parle-nous, Seigneur. Et si on dit, Seigneur, parle-nous, c'est pour entendre sa voix. Et ce n'est pas pour lui dire, ah, je ne suis pas d'accord. Et à partir du moment où je dis où je ne suis pas d'accord, c'est que là, je ne suis plus en règle avec le Seigneur. C'est qu'il y a un problème dans ma vie spirituelle. Parce qu'en fait, quand Dieu parle, je dois toujours être d'accord avec lui. Amen. Vous savez, quand on lit la vie d'Abraham, je n'y étais pas, bien sûr, mais quand Abraham est arrivé dans le pays promis, ben, il a dû avoir quoi en son cœur quand Dieu lui a dit « Ça y est, tu es arrivé !» Il a dû être content, hein, qu'est-ce que vous pensez ?« Ah, le Seigneur a accompli sa promesse, je suis arrivé au pays promis !» Et tant et si bien que quand on lit, il est écrit au Genèse chapitre 13, 14, versets 14 et 15, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, à ta postérité pour toujours. » Alors là, je ne veux pas rentrer dans des détails, mais ne vous inquiétez pas pour Israël, priez pour lui. Dieu a donné, vous avez entendu, des frontières, et personne ne pourra le reculer en dehors de ces frontières. Ils vont bien essayer, et c'est en marche. C'est en marche. Ils vont bien essayer, mais s'ils lisaient bien la Bible, ils lisent dans les prophéties, que quand le peuple d'Israël sera attaqué, alors Dieu se lèvera et il combattra pour le peuple d'Israël. Ah oui. Il faut savoir ces choses, mes frères et sœurs, de manière à ne pas être troublés par les événements, ni à participer à ce que le monde donne. Nous sommes des chrétiens, nous devons vivre dans la pureté, nous ne devons pas nous laisser entraîner par les idées, nous devons être des protecteurs pour nos enfants, nous devons réagir dans le bon sens. Dieu nous appelle à être un peuple saint et à rester saint, car sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Lève-toi, dira-t-il Dieu à Abraham au verset 17, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Et cette promesse est encore pour Israël, mais pour tout enfant de Dieu. Car si nous fixons nos regards sur Jésus en tant qu'enfant de Dieu, maître et sauveur, je me permettrai de dire ce matin simplement, et vous l'avez peut-être déjà entendu, fixez quand même vos regards sur Israël, car les choses qui arrivent nous parlent du retour du Seigneur. C'est même attristant, mais il faut que cela se passe pour que le peuple de Dieu réagisse dans le bon sens. Ne fermons pas les yeux par rapport aux choses qui se passent dans ce pays d'Israël, mais prions pour Israël. Et prions pour tous les enfants de Dieu, afin que tous restent forts et fermes dans la foi. Vous savez, j'ai parlé de joie, et puis je vais arrêter, autrement je vais déborder sur le temps. J'ai parlé de joie, j'ai dit Abraham, quand il a marché, et quand il a mesuré, il n'a pas mesuré parce qu'il a fait, hein, il a compté des pas en long, en large. Mais il était dans la joie, moi j'imagine qu'il était dans la joie quand il marchait là. Je suis dans le pays promis. Nous pouvons dire que nous sommes dans la joie parce que nous avons la même espérance. Mais vous avez dit Alléluia, mais l'espérance à quoi? Oui, mais pour Abraham. Ah, il y en a qui sont en train de penser, mais il est arrivé, ça y est, il est arrivé. Donc je comprends qu'il soit joyeux. Non, c'est pas ça qui fait sa joie. Écoutez bien, je vais vous le lire. Il avait en son cœur l'attente de la cité au fondement inébranlable, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11:10, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Non seulement il a levé les yeux sur le pays de Canaan, mais il ne s'est pas arrêté là, il a levé les yeux beaucoup plus haut. Et ça, c'était déjà en son cœur. Il attendait la cité céleste. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Avec la grâce de Dieu, quand nous arriverons au ciel, nous verrons Abraham.
Je ne sais pas comment ça va se passer. Hein. Je vais peut-être dire une bêtise là, mais ça va vous réjouir. On va arriver au ciel, on va marcher. Un homme va venir devant nous et dire « Bonjour, je suis Abraham. Oh » Je suis René Ascouette. Oui, parce que je ne sais pas quel est le nom nouveau que le Seigneur m'a donné. Ça a l'air de vous faire plaisir. Parce qu'arrivé dans le ciel, je suis sûr qu'on va tous reconnaître Jésus. Hein? Vous allez dire, mais on reconnaîtra Abraham. Pourquoi? Parce qu'on a vu des photos. Mais tu es sûr que les photos sont vraiment la réalité d'Abraham? Oui. On va être émerveillés là-haut dans le ciel. Non? Ouais. Bonjour, je suis Moïse. Oh, Seigneur. Je suis avec Moïse. Quelle joie. On est là. On va tous se retrouver. Arrivé dans le... Bonjour, je suis Stéphane. Ah oui, c'est là. Je parlais de mon frère. Car nous croyons tous que nous y serons aussi dans le ciel. Non? Et que nous aurons tous droit à la place que le Seigneur Jésus nous a préparée. Alors nous aussi, on a une promesse quand même. Hein? La cité qui nous est décrite par Jean. Vous relirez ça dans Apocalypse, chapitre 21-22. Mais permettez-moi de vous citer simplement ceci, la Jérusalem céleste qui est dans le ciel et que Dieu est en train de nous préparer. Celle que lui-même bâtit, savez-vous qu'elle est construite avec des matériaux différents? Avec des matériaux précieux, des matériaux purs. Elle aura les 12 portes. 12 portes où, sur chacune de ces portes, il y aura le nom des 12 apôtres. Ça sera formidable. Vous rendez compte? Toute une cité en matériaux purs. Vous allez voir, là-bas, dans le ciel, là, cette cité, il n'y a pas de goudron. Il n'y a pas de chemin caillouteux, bétonnés, poussiéreux. Les chemins, les rues sont pavées d'or. D'un seul coup, il y en a au milieu de nous qui disent « Ah ouais ? Tiens, je veux y aller là-haut, moi. Pavé d'or ? Hein ? C'est extraordinaire. » Mais ce qui veut dire que tout ce qui rentrera là-haut, déjà, les matériaux sont purs, parce que je ne vous dis pas tous les matériaux, vous pourrez les relire, il y a des diamants, il y a enfin, plein de choses que les dames aiment. Hein? Mais ce qui est à se retenir, c'est que dans cette cité qui est pure, rien d'impur ne rentrera. Ce qui veut dire, mon frère, ma sœur, je ne veux pas t'amener dans la peine et la tristesse, bien au contraire. Mais si je vis une vie d'impureté, je ne serai pas sauvé. Moi, je le conçois comme ça. Si je me trompe, il faudra me le dire. Mais ça va au-delà de ça. Si moi-même, j'adhère à des pensées impures, si je ne les condamne pas, je serai considéré comme impur. Relirez les textes. Hein. Ceux qui admettent les choses que nous voyons autour de nous, et je me permets de dire pour être plus clair, nous avons dépassé les temps de Sodome et de Gomorre à cause de la technologie. Donc il est dit... Ceux qui ne les pratiquent pas, vous le relirez ça, c'est Paul qui le dit. Ceux qui ne les pratiquent pas, mais qui les approuvent, ou qui adhèrent enfin finalement, ils sont tout aussi condamnables que ceux qui les pratiquent. Je pense qu'il est bon de dire ces choses-là. Je sais qu'aujourd'hui c'est une fête de Noël, et en préparant ça, j'ai dit, Seigneur, faut-il que je dise ça ? Et j'ai été travailler toutes ces heures passées, tout à l'heure encore en venant, je dis, Seigneur, faut-il que je dise cela? Tout à l'heure, assis là, je dis, Seigneur, faut-il que je dise cela? Et j'ai eu une réponse, ça va peut-être vous faire sourire. mais je vais vous la livrer. Dans le cœur est venue cette pensée, tu as travaillé cela toute cette semaine, tu vas te donner ça. Oui, en fait, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Seigneur. Alors, frères et sœurs, sachons aussi, et je terminerai par cette pensée, que nous sommes enfants de Dieu. Merci Seigneur, il nous a sauvés. Entre guillemets, je dirais, nous sommes aussi, en tant que chrétiens, responsables de notre famille. Nous sommes aussi responsables de ceux qui nous entourent. Nous sommes responsables vis-à-vis des païens. Nous avons la vérité, nous connaissons la vérité. Et nous savons que si nous ne disons pas cette vérité, nous serons en contradiction avec la parole de Dieu. Le chrétien est arrivé dans un temps, bien avant aussi, mais je le dis ce matin, est arrivé dans un temps où il ne peut pas admettre certaines choses. Et il doit prendre position. Nous sommes responsables du témoignage que nous devons rendre. Et le témoignage s'attache à la vérité que nous connaissons. Dernièrement, quelqu'un me disait ceci, « Mais monsieur, nous sommes dans la mondialisation. Les temps changent. » Oui, les temps changent, mais pas la parole de Dieu. Elle est toujours la même. Elle a toujours le même message. Tu es pécheur, tu es condamné. Tu te repens, tu seras sauvé. Change de vie. Change de manière d'agir. Change de manière de penser. Deviens un enfant de Dieu qui glorifie Dieu dans sa vie et recherche la sainteté sans laquelle, je le répète, nul ne verra le Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, soyons de ceux qui prennent soin de leur famille. Oui ? C'est bien, le Seigneur nous appelle à le suivre, à nous donner à lui, mais il nous dit, prends soin des tiens. Par exemple, un jour, Pierre a dit à Jésus, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Alors, il a tout quitté, oui, il a quitté son bateau, il a quitté ses filets de pêche, il était pêcheur, il a suivi le Seigneur Jésus. Mais c'est vrai que c'est un appel à des circonstances particulières, il va devenir apôtre, disciple et apôtre. On est d'accord ? D'ailleurs, à un certain temps, quand Jésus a été crucifié, il ne pensait pas le revoir. C'est lui-même qui va dire aux autres disciples, « Allez, je m'en vais, je retourne au travail, je vais à la pêche. » Vous vous rappelez de ça, de ce texte, hein? Mais si c'est vrai que Pierre a dit un jour à Jésus, « Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi », moi j'aime bien ce texte, parce que, au cas où vous ne le sauriez pas, Pierre était marié. Vous le saviez, ça? Oui, marié. Et je vais vous dire un truc. Il aimait sa belle-mère. Oui, il aimait sa belle-mère. Oh, les frères, vous aimez votre belle-mère? Moi, je l'aime bien. Et vous, les sœurs, vous aimez votre belle-mère? Et les belles-mères, est-ce qu'elles aiment leur bru? Hein? Et les pères, là, est-ce qu'ils aiment leur beau-fils? Bizarre, au fur et à mesure, ça tombe. Eh bien, Pierre, il est allé chercher Jésus pour qu'il vienne prier pour sa belle-mère qui était malade avec la fièvre. Et alors, regardez le résultat. Jésus prie pour la belle-mère de Pierre. D'un seul coup, la joie est revenue. La santé lui est revenue. Les forces sont revenues. La belle-mère, elle s'est levée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a servi tout le monde à table. Aimez vos belles-mères pour qu'elles vous servent. Et il y a d'autres exemples comme ça dans la parole de Dieu. Tenez, un dernier. Vous me laissez 5 minutes, juste un dernier. Jésus, fils de Dieu, lui, il est venu sur la terre de par la volonté de Dieu. Il a accompli le ministère que Dieu lui a donné. Il est né de Marie. Peut-être que vous allez en entendre parler cet après-midi. Marie, sa mère. Il a fait donc son ministère et il est monté jusqu'à la croix. Et là, sur la croix, il a porté un regard. Et il a vu Jean, le serviteur qu'il aimait, Il aimait les autres aussi, hein, mais je ne cite que le texte. Et il vit Marie, sa mère, à côté de Jésus. Eh bien, Jésus, là, nous montre qu'il était plein d'affection. Sa mère, à côté de Jean, pardon. Et Jésus nous montre combien il avait de l'affection pour sa mère. Il va dire, Jean, voilà ta mère. Marie, voilà ton fils. Et à partir de ce jour-là, Jean a pris Marie sous son aile. Dites pas tous Alléluia. Prends soin des tiens. Il est écrit, dernier verset qui me vient, que celui qui n'est pas, qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un étudiant. Alléluia. Vous voulez que je vous dise le verset dans son intégralité? Je crois que je l'ai là. J'ai dit que c'était mon dernier verset, ne vous inquiétez pas. Alors, je croyais l'avoir de marqué. Oui, c'est ça, 1 Timothée chapitre 5, versets 7 et 8. Oui, c'est ça. Parle clairement de toutes ces choses, inculque-leur ces principes, fais-leur de recommandations précises afin qu'elles mènent une vie correcte et irréprochable. Ouais, 1 Timothée 5, 7 et 8. Je continue. Si quelqu'un néglige les siens, en particulier les membres de sa famille, et les personnes qui vivent sous son toit, il renie sa foi, il est pire qu'un incroyant. Hey, tiens, vous me permettez, mais très fraternellement, hein, sans aucun esprit de jugement, est-ce que vous le connaissiez, ce verset? Hein? Vous ne connaissiez pas? Pourtant, il est dans la Bible. Hein. Comme quoi, des fois, on prend des versets qui nous intéressent, et ceux qui ne nous intéressent pas trop, ceux qu'on trouve peut-être indélicats, ceux qu'on se dit sont insignifiants, alors que ce verset nous prouve que si on ne fait pas ce qui nous est, on est pire qu'un incroyant. Et je voulais vous poser une dernière question. J'arrête après, sûr, je vais me débrancher. Un incroyant a-t-il le droit au ciel? Un incroyant. Ah oui, mais là, il n'est pas écrit. S'il se convertit, ce n'est pas écrit. Ça, c'est ce que vous pensez parce que vous êtes chrétien. Et vous avez raison, vous avez d'autres. Mais réfléchissez bien. Si vous ne demandez pas pardon au Seigneur de ne pas avoir pris soin des vôtres, vous restez un incroyant. Et un incroyant, s'il ne se repent pas, vous voyez qu'on arrive à la même conclusion. Comme on disait quand j'étais au lycée, et je termine, CQFD. CQFD. Vous savez ce que ça veut dire? Retourner à l'école. Ben, on a bien des ministres qui retournent à l'école. On en entend parler tous les jours. Ça veut dire ce qu'il fallait démontrer, bibliquement parlant. On termine par la prière. Que Dieu soit béni.